La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à cette nouvelle édition de La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour, Izzy.
Bonjour, toujours un plaisir.
Aujourd'hui, on est avec Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon et Yannick Patelli.
Bonjour, Izzy, Michel.
Bonjour à vous tous.
Et Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole. Yannick, je vous laisse présenter l'invité. On va aller faire un petit tour sur les terres agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui.
Oui, Michel, absolument. On est avec aujourd'hui par téléphone avec Émilise Lessart-Terrien. Vous la connaissez bien, La quotidienne, elle est déjà venue à quelques reprises. Elle a été critique agricole pour Québec solidaire. Elle a fait une belle carrière chez Québec solidaire. Et elle était d'ailleurs, on t'a vu souvent, Émilise, on vous a vu souvent, Émilise, à l'Assemblée nationale, très virulente. Et je sais que l'accaparement des terres est quelque chose qui vous inquiète, qui vous inquiète probablement encore. On va revenir aussi sur les fameux Chinois qui achètent des terres. Je sais que vous aviez dit chez nous, il y a quelques années, en fait, que les Chinois achetaient des terres. Nous, on a eu beau chercher, on n'a jamais vraiment trouvé les Chinois. Et on voulait vous parler aujourd'hui parce que le ministre Lamontagne a lancé la grande consultation sur le zonage agricole en juin dernier. Dans le courant de l'été, vous m'aviez écrit en disant « je pense que je vais avoir des choses à dire ». Le contexte politique actuel et d'actualité fait en sorte que Thomas Gerbet a sorti un texte qui dévoile que le chef du Parti québécois vient d'acheter il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, des terres dans le Témiscamingue. Alors que le Parti québécois dit clairement que quand tu n'es pas producteur, tu n'as pas à avoir de terres agricoles. Alors j'aimerais ça que vous nous disiez, vous, où vous situez par rapport à ce discours sur le zonage. D'abord, est-ce qu'il y a encore des Chinois? Est-ce que vous avez revu des Chinois, en fait, dans le Témiscamingue? Et qu'est-ce que vous pensez de l'achat par Paul Saint-Pierre Plamondon de ces terres à Fabre, à Saint-Édouard-de-Fabre?
Oui, ce sont toutes de grandes et bonnes questions. Ben d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Très contente d'être parmi vous. La question, oui, de l'accaparement des terres agricoles qui me préoccupe toujours grandement. Je commencerai peut-être par ce petit bout-là, parce que bon, il y avait dans les nouvelles récentes cette histoire que le chef du Parti québécois possède des terres agricoles au Témiscamingue. Quand on parle d'accaparement agricole, on fait souvent référence à de grandes superficies. Dans ce cas-là, ce ne sont pas de si grandes superficies. Mais néanmoins, la question se pose sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme territoire agricole au Québec et comme territoire vivant dans les régions du Québec, dans la ruralité. Et c'est là que moi, j'ai une préoccupation, que les gens soient d'origine chinoise, allemande, italienne, française, québécoise, peu importe. À partir du moment où ils habitent le territoire qu'ils possèdent, moi, j'ai pas d'enjeu avec la provenance de ces gens-là ou quoi que ce soit. Tant que les gens qui possèdent la terre habitent la terre aussi. Parce que en ruralité, quand on a des gens de l'extérieur, qui sont parfois québécois, mais de l'extérieur quand même, qui possèdent des superficies dans nos territoires ruraux, ben ça déstructure en fait notre vitalité locale parce que les maisons souvent ne sont plus habitées. Mais non seulement ça, c'est que ces gens-là ne participent pas à l'économie locale, ils envoient pas leurs enfants dans nos écoles, et donc on assiste en ce moment dans nos petites municipalités qui sont très très agricole encore, à la disparition tranquille de nos petits commerces de proximité. Et moi, ça me préoccupe. Et donc, c'est pour ça que l'agriculture, en fait, c'est formidable. C'est que ça oblige les gens à habiter le territoire parce que c'est un des seuls secteurs à peu près qu'on ne peut pas délocaliser. Il faut être sur place pour cultiver le territoire. À tous les jours, la météo a une influence sur comment va se passer notre journée. Donc, c'est le secteur économique qui oblige vraiment à ce que les gens habitent le territoire à condition qu'ils cultivent, qu'ils ne font pas cultiver nécessairement par d'autres ou ne laissent pas les terres retomber en friche.
Ouais, effectivement, d'ailleurs, la maison qu'a achetée Paul Saint-Pierre Plamondon est un peu délabrée. Il y a beaucoup de travaux à faire dessus, d'après les photos qu'on a vues à Radio-Canada. Et on rappellera que Pascal Bérubé, qui est votre pendant de l'époque, en fait, critique agricole au Parti québécois, disait le 28 juin dernier, en fait, quand tu n'as pas de bottes le matin, tu n'as pas à avoir une terre. Donc, c'est sûr que le discours est un peu devient un peu ambigu, du coup, avec cet achat qui vient de se faire.
Ben, c'est clair, ça envoie un message un peu qui est contradictoire. Puis on le sait, là, nos terres agricoles font l'objet de plus en plus d'achats pour faire de la spéculation foncière ou pour un placement. Tu sais, on achète une terre agricole, on va la revendre dans 15 ans, on va avoir pris parfois le triple, le quadruple de sa valeur. Donc, c'est comme un placement. Mais nos terres agricoles ne devraient pas servir à faire fructifier de l'argent nos terres agricoles devraient servir d'abord et avant tout à nourrir les Québécois, les Québécoises, et devraient être mis, devraient être accessibles pour la relève, parce que c'est un enjeu en ce moment. La relève a de plus en plus difficilement accès à des terres parce que parce qu'elles sont devenues extrêmement chères à cause de l'effet de la spéculation. Alors,
et justement, en parlant de spéculation, parce que je ne sais pas si vous, quand vous étiez à Québec solidaire, vous aviez pu avoir des réponses, mais nous, on était au lancement de la grande consultation sur le zonage que le ministre a lancé au mois de juin dernier. Il y avait plusieurs décideurs importants qui étaient là. Il y avait le président de l'UPA, Martin Caron, à qui on a posé la question, à savoir pourquoi il n'y a pas de registre, pourquoi on ne peut pas savoir derrière les incorporations qui sont derrière. Parce qu'en fait, on peut soupçonner, et on est à peu près certain d'ailleurs, que c'est normal, les producteurs qui font beaucoup d'argent dans des systèmes actuels, que ce soit par la SRA, par la gestion de l'offre, qui font de l'argent, qui ont un bon revenu, mais en fait, ils ont des besoins des fois pour étendre du lisier, s'ils sont producteurs de porc, ils ont de l'argent parce qu'ils sont sous système de gestion de l'offre et leur ferme va bien, donc en fait, ils achètent des terres. Donc en fait, on soupçonne souvent que les fameux acheteurs de terres qui font monter le prix des terres, c'est aussi parfois des producteurs. Et là-dessus, on a un peu de mal à avoir une réponse claire de la part de l'UPA. Vous, en tant que Québec solidaire, est-ce que vous aviez déjà évalué cette piste-là?
Absolument. Moi, j'ai déposé un projet de loi en mai 2022, justement sur la question de la financiarisation des terres agricoles. Et le projet de loi faisait essentiellement deux choses, c'est-à-dire d'établir un registre pour qu'on soit capable de retracer qui possède quoi au Québec. Et la deuxième chose, c'était de réserver l'achat de terres agricoles par des gens qui sont des agriculteurs. Puis maintenant, vous avez raison de dire que parfois la concentration de la terre agricole ou la possession de la terre agricole, ce sont par de très, très gros producteurs agricoles. Est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à des mécanismes aussi pour s'assurer du maintien d'une diversité sur le territoire agricole québécois, diversité dans la taille de nos entreprises ou de nos exploitants de terres agricoles? Ben ça, il y a plein de politiques publiques qui pourraient se pencher sur la question pour favoriser le maintien d'une agriculture qui est très diversifiée, qui est à grande échelle, oui, mais à petite échelle aussi. Si on veut avoir une agriculture qui est résiliente, il faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, puis concentrer la possession des terres agricoles et concentrer la production agricole entre les mains d'une poignée de personnes. Moi, je suis très, très sensible à cet enjeu-là aussi.
Alors, concernant le registre, d'ailleurs, on a dans le studio avec nous Michel Saint-Pierre, que vous connaissez, que président de l'Institut Jean Garon, qui a déjà participé à des émissions avec vous aussi. Je pense que sur ce point-là, vous allez certainement vous retrouver, parce que je pense que l'Institut est en attente d'un registre.
Oh, on se retrouve beaucoup, je dirais, Émilise, bonjour. On se retrouve d'abord sur la première partie de l'émission sur d'abord la problématique actuelle qui existe là, d'achat de terre en attente de choses, qui existe également. Mais nous, on est allé un peu plus loin, on s'est dit, la cause profonde de ça, est-ce c'est pas l'absence d'une politique d'occupation et de mise en valeur du territoire? C'est si on avait des politiques qui font en sorte qu'on sort, je dirais, des régions centrales qui ont été largement favorisées pour avoir au moins un plan pour de mise en valeur de l'espace. Parce que c'est pas normal que 40% de notre petit territoire agricole ne soit pas en exploitation. Ça pour moi, c'est la deuxième partie, je dirais, de cette problématique-là. Oui, qui possède, qui achète, c'est une chose, mais que ça soit pas laissé en, je veux dire, comme ça, en attente. Il faudrait, à tout le moins, que ceux qui achètent aient une obligation de produire, d'une part. Ça serait déjà un début, hein, n'est-ce pas, Mélise?
Absolument que les terres soient mises en culture. Moi, j'irais plus loin que ça encore. C'est le gouvernement du Québec possède des leviers importants pour justement favoriser la production agricole sur son territoire parce qu'il est lui-même un grand client de l'alimentaire au Québec. Puis moi, je suis une grande, grande partisane de la souveraineté alimentaire via l'institutionnel. Le gouvernement du Québec opère à l'heure actuelle des centaines et des centaines de cafétérias, que ce soit en CPE, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les CHSLD. On pourrait également ajouter dans nos écoles primaires secondaires. Ça fait d'ailleurs l'objet de plus en plus de revendications, c'est-à-dire d'offrir des repas chauds à nos enfants qui sont à l'école. Ben si on pouvait assortir ça à une politique nationale d'aliments locaux.
Mais là-dessus, est-ce qu'on a évolué, Émilie? Là-dessus, le ministre Lamontagne l'a souvent soutenu aussi. La période de la pandémie aussi a mis de l'avant la souveraineté alimentaire. Il y a eu des changements quand même à ce niveau-là.
Ben, il y a eu des changements, mais ça reste quand même assez mineur. Ce que Lamontagne a dit, c'est qu'il invite les institutions à se doter d'une cible, à ne pas imposer lui-même une cible. Mais en dehors de la cible, il faut s'assurer que ce soit possible pour les producteurs agricoles notamment, ou encore les institutions, de s'approvisionner localement. Puis en ce moment, où il y a un trou, c'est dans la chaîne où on a peu d'infrastructures de transformation alimentaire dans les régions du Québec. C'est très concentré dans les grands centres, ce qui fait que, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue ou en Gaspésie, il n'y a pas d'abattoir. Donc, comment voulez-vous que on puisse s'approvisionner durablement ou à coût moindre avec notre viande locale si notre viande doit parcourir des centaines et des centaines de kilomètres pour se faire abattre? Même chose, tu sais, il faut démocratiser davantage toutes les formes de transformation, que ce soit, oui, la viande, mais après, ça peut être la laiterie, ça peut être au niveau de nos céréales, ça peut être au niveau de notre production maraîchère. Donc, ça va prendre des investissements. Puis un alignement clair de la part du gouvernement du Québec pour vraiment donner toute pour faire tout émerger le potentiel de notre agriculture au Québec.
Quand je parle de politique, c'est ça dont je parle. Je parle de faire en sorte qu'on prend les moyens. Ce que j'ai souvent mentionné pour avoir vécu les 40 dernières années de l'agriculture, puis je suis un petit peu même conservateur, je suis allé plus, je dirais plus en me rapprochant du 50. L'agriculture qu'on fait actuellement au Québec, c'est celle qu'on a voulu par les programmes. Mais on les a voulu il y a 40 ans. Ces programmes-là ont amené une concentration de notre agriculture, production. Par exemple, pourquoi on produit du maïs-grain, du soya dans une région très définie et qu'on exporte du porc également? C'est parce que c'est la conséquence directe des programmes qu'on a eus. Alors, si ces programmes-là, ces politiques-là ont donné ces résultats-là, d'autres politiques ou des politiques ajustées pour d'autres fins donneraient d'autres résultats. Et vous parlez, par exemple, d'avoir un abattoir, une infrastructure permettant de faire une production bovine et de la développer dans votre région. Ben, je dirais que c'est tout à fait un bel exemple de ce que ça pourrait être, une politique. Ça peut être des soutiens temporaires également, parce que faut établir des modes de production. Si c'est, par exemple, d'introduire des nouvelles production végétale, ça prend quelques années avant qu'on ait l'expertise qu'il faut. Souvent, c'est également les variétés, les semences adaptées aux régions. C'est tout ça, une politique. Et cette politique-là, Émilie, elle n'existe pas. On a voulu, ça fait longtemps qu'on cogne sur ce clou-là, l'Institut Jean Garon. J'ai été directement associé comme étant l'instigateur de la commission sur l'avenir de l'agriculture, et c'est ça qu'elle a dit, la commission.
Émilie,
mais on l'a tabletté.
Michel, Émilie, je pense qu'on me fait signe qu'on va à la pause et on revient après. Émilie, reste avec nous, c'est trop intéressant.
Oui, bougez pas, on revient dans un instant.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à MaTV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7, en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de La Vie agricole.
Nous voilà de retour à la quotidienne. Je vous rappelle que je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, bien sûr, bien que Izzy, t'es sage aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis sage.
Tu laisses beaucoup de place à Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon.
Oui, mais il prend tellement de place, ça n'a pas de bon sens.
Et Yannick Patelli, éditeur de la Vie agricole, qui est avec nous. Et on a comme invité Émilise Lessard-Thérien, qui était, entre autres, qui a été porte-parole en agriculture pour Québec solidaire dans l'opposition à Québec et qui est dans le monde agricole.
Oui, exactement. Puis peut-être, Émilie, justement, pour nous mettre dans le contexte aussi, pour que Izzy te connaisse un peu plus, mm-hmm. peut-être tu vas pouvoir nous parler de qui tu es et de que tu deviens. Parce que moi, j'aimerais ça. J'ai deux questions en une. J'aimerais ça savoir quel est le projet politique d'Émilise Lessard-Thérien. Est-ce qu'on va te revoir un jour sur la colline ici à Québec? Est-ce que c'est dans les ambitions d'Émilise? Et également aussi, c'est quoi les attentes de cette consultation? Parce que la consultation, elle a commencé un peu timidement cet été. Il y a trois volets. Le gros volet, ça va être celui justement sur la propriété. Normalement, on devrait recevoir un fascicule qui va nous expliquer un peu à qui appartiennent les terres ou comment on pourrait organiser la connaissance de la propriété des terres. C'est quoi tes attentes par rapport à tout ça? Puis c'est quoi donc le projet de vie d'Émilise?
Oui, alors ben moi, mon projet politique, là, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je suis dans la course pour succéder à Manon Massé comme co-porte-parole de Québec solidaire. D'ailleurs, je vous parle en direct là, de cette île où je suis en grande tournée à travers le Québec pour rencontrer les membres de Québec solidaire. Et à travers mon projet politique, la question de la souveraineté alimentaire, elle est fondamentale pour moi comme un moyen de développement, mais de dynamisme aussi pour les ruralités du Québec. Moi, j'habite dans une région éloignée et je vois comment mon territoire est de plus en plus délaissé, abandonné par les grandes orientations politiques actuelles. Et c'est pour ça que parler de souveraineté alimentaire, pour moi, c'est ça fait grandement partie de mon projet politique.
Dis-moi, si tu gagnes ta campagne de co-porte-parole, tu es en train de nous dire finalement qu'on va parler d'agriculture bien plus souvent dans l'actualité, parce qu'en fait, bien souvent, l'actualité est un petit peu relayée en arrière-plan. C'est pas forcément le sujet dont on le met le plus en avant, mais si demain matin, on a un chef ou une chef, ou une co-chef, on va dire, qui est porteur d'agriculture, ça va un petit peu changer la donne médiatique, ça?
Ben, absolument. Bien sûr, moi, j'en parle sur toutes mes tribunes le plus possible et avec les membres aussi que je rencontre actuellement. Et je peux vous dire que ça soulève énormément d'appétit. L'alimentation, tout le monde mange trois fois par jour, c'est tout le temps associé ou généralement associé à des moments d'échange, des moments de partage, des bons moments. Puis on est tous très fiers de notre agriculture au Québec, tous très chauvins, chacun dans nos régions, de nos fromages, de nos saucissons, de nos poissons. Donc, je pense qu'il y a vraiment un nouveau projet de société à construire autour de la question de la souveraineté alimentaire. Et donc, oui, si je suis élue co-porte-parole de Québec solidaire à la fin du mois de novembre, la question de l'agriculture, j'espère, prendra plus de place dans la grande discussion collective. Maintenant, sur la question de la consultation pour la réforme, notamment de la loi sur la protection du territoire agricole, moi, je suis de celles qui pensent qu'on était dû pour dépoussiérer un peu cette loi-là. Mais bien sûr, en gardant toujours à l'esprit que ça doit se faire au bénéfice de l'agriculture d'abord et des territoires ruraux ensuite, parce que moi, je vous dirais qu'en ruralité, depuis 40 ans, parfois on a l'impression que nous sommes très limités dans notre développement en ruralité et quand on regarde ce qui se passe du côté des grands centres, le territoire agricole, il est dézoné abondamment pour construire des autoroutes, pour construire des hôpitaux, pour construire des centres de données de Google. Et ça nous forge quand nous, on est dans la ruralité puis qu'on a des terres qui ne sont pas propices à l'agriculture, qui ce sont des caps de roche, des petites forêts de pins gris, tout rabougris qui longent nos lacs et qu'une municipalité, par exemple, voudrait faire un petit développement récréotouristique sur la portion non cultivable de la terre agricole, ben se voit toutes ces initiatives bloquées par la rudesse, la rigueur de la loi, sur la rigidité plutôt de la loi sur la protection du territoire agricole, et de se servir aussi de cette réforme-là peut-être pour réfléchir justement à qu'est-ce qu'on veut comme type d'agriculture et quel type d'agriculture est propice dans chacune des régions du Québec. On en parlait tout à l'heure, il y a bien des régions qui se sont développées autour de la production du maïs et du soya, peut-être parfois au détriment de d'autres productions où on gagnerait sur le plan de la souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut reconnaître aussi les spécificités de chacune des régions. On fait pas pousser, on fait pas pousser les cultures en Mauricie ou en Montérégie comme on va faire pousser des cultures en Abitibi-Témiscamingue ou au Bas-Saint-Laurent. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler nos politiques agricoles ou en tout cas notre zonage agricole ou bref, le type de culture qu'on va faire pousser en fonction des spécificités climatiques propres à chacune des régions.
Alors, on entend la passion dans la voix d'Émilie Lessart-Terrien, passion pour l'agriculture, Izzy.
Oui, moi, je viens de découvrir une personne extraordinaire, honnêtement. C'est tellement intéressant de t'écouter. On a envie d'embarquer, on a envie de te suivre. Moi, je trouve ça génial. J'espère qu'on va la revoir aussi à l'émission.
Mais comment envie de suivre et tout ça, comme elle est sur le chemin d'être co-porte-parole de Québec solidaire, est-ce que sur le terrain, Émilie, on vous parle aussi de la fameuse inflation dans le panier d'épicerie? Est-ce que quand on parle de souveraineté alimentaire, est-ce que ça pourrait nous amener de la nourriture un peu moins chère?
Ah ben c'est sûr, moi je suis convaincue de ça parce qu'en ce moment la chaîne, tu sais, l'agroalimentaire, il y a une concentration en fait de la possession de nos de l'industrie agroalimentaire entre les mains d'une poignée de joueurs, que ce soit dans l'industrie laitière, c'est quoi à peu près 95% de la production ou de la commercialisation, de la mise en marché, se sépare entre trois immenses joueurs. Effectivement, en diversifiant le plus possible nos productions, nos façons de faire de la mise en marché, en développant davantage des circuits courts, moi, je suis convaincue que c'est d'aller se rechercher de la... C'est prévoir pour de la résilience, c'est faire un peu un pied de nez aux grandes industries qui ont le contrôle, finalement, parce que, je veux dire, le prix des aliments augmente, mais c'est pas nos producteurs agricoles là, qui s'en mettent plein les poches, ce sont beaucoup les entreprises de distribution, les entreprises qui font la mise en marché, et ultimement, ben, c'est le portefeuille des Québécois qui écope, mais si on était capable de diversifier puis de briser ces monopoles-là, ben moi, je suis convaincue que monsieur, madame, tout le monde... en tirerait vraiment à son avantage.
Et est-ce que aussi la carte environnementale peut être jouée? Parce qu'à l'intérieur de la souveraineté alimentaire, je présume qu'on va diminuer le transport. Lorsqu'on va chercher les fruits, les légumes ou peu importe la denrée, on va la chercher à l'extérieur du Québec et qu'on doit le transporter. Il y a évidemment tout l'aspect environnemental relié au transport. Est-ce que c'est un point également que vous soulevez?
Ben absolument, là, vous m'enlevez les mots de la bouche, mais bien sûr qu'il y a un lien à faire. C'est une diminution drastique du transport. Si demain matin, on est capable de développer des circuits courts à l'intérieur des régions, de développer cette résilience-là, bien sûr que ça a un impact. Puis choisir notre agriculture aussi versus une agriculture qui vient de l'autre bout du monde où, tu sais, on parle beaucoup du transport, mais si on pense, par exemple, au Chili où 95% de l'eau potable va pour drainer des terres agricoles pour nourrir qui? Nous, les Nord-Américains, je veux dire, c'est exponentiel ce qu'on peut avoir comme impact au niveau climatique si on choisit de se nourrir avec notre production locale, en renouant aussi avec la saisonnalité de nos aliments. Ça, c'est un autre volet qui est très important. Si on peut retrouver cette agriculture-là de saison, ça peut aussi considérablement aider là, pour l'environnement.
Et le type de culture aussi également, là, quand on pense à tous les pesticides et les éléments qui sont utilisés, est-ce que c'est aussi le moment de faire la réflexion sur le type d'agriculture qu'on veut dans nos terrains?
Bien sûr. Puis encore là, avec une politique d'aliments locaux, si on se dit, ben, on veut une cible à 70% d'aliments locaux dans nos institutions, on veut aller chercher un 35, un 40, un 50% en agriculture biologique, ben, tout d'un coup, c'est qu'on vient sécuriser, les ventes pour nos producteurs agricoles parce qu'on est très exigeants, nous, les Québécois, sur, les normes de bien-être animal, sur les normes agro-environnementales. Mais quand il est temps d'arriver à l'épicerie, ben, hein, des fois, la tomate du Mexique ou la tomate de champ qui est pas toujours parfaitement ronde et parfaitement standardisée, ben, parfois, on va choisir la tomate du Mexique, ce qui fait que on est très exigeant avec nos producteurs, mais parfois, ce ne sont pas eux qu'on choisit. Et donc là, de dire on a une politique nationale qui va choisir nos agriculteurs d'abord, ben, ça devient beaucoup moins insécurisant pour nos producteurs de faire la transition, d'adopter des nouvelles pratiques culturelles, justement, qui sont plus en phase avec l'environnement, avec le bien-être animal, parce qu'ils vont s'assurer qu'on va les choisir. Tu sais, nos agriculteurs sont en compétition avec le monde entier, là, puis ça, il faut pas l'oublier. Ils sont en compétition avec des endroits dans le monde où ils ont même pas l'hiver. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas jouer, ils jouent pas à armes égales.
Michel, quand on parle de circuit court, oui. Il me semble l'image devrait être très simple,
oui.
Moins de monde. Parce que le contraire de circuit court, ça s'appelle circuit long.
Oui.
Et circuit long, ça veut dire des intermédiaires. Exactement. Et on peut comprendre facilement en économie que plus tu mets d'intermédiaires, plus ils sont là. Je pourrais ça ajouter quelque chose juste pour nous mettre dans l'heure du temps. La prochaine étape de travail qui se fait actuellement, parce qu'on fait des fascicules pour soulever l'adduction en matière de réforme, révision de la loi de protection et des activités agricoles, la prochaine étape, c'est très bientôt, ça va être celle de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est deuxième fascicule, comment on occupe notre territoire agricole. Ça va être fort intéressant de savoir qu'est-ce qu'on en fait de notre territoire, parce que ça va soulever justement la question des disparités régionales qui existent. Et le troisième fascicule, lui, va venir peut-être un peu plus tard, je ne sais pas quand, qui possède. Ça, c'est un peu plus difficile parce que, dans le fond, on va être dans un dédale de transactions juridiques pour lesquelles il y a toutes sortes de monde, des corporations et tout.
Toutes des belles occasions pour faire revenir Émilise Lessard dans notre quotidien.
Merci beaucoup, Émilise Lessard-Thérien, d'avoir participé à cette quotidienne.
Ça fait grand plaisir. Bonne journée.
Émilise, au revoir.
Merci beaucoup. Voilà qui complète cette émission. Merci beaucoup, Yannick Patelli. Merci, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Merci, Izzy. On se retrouve, bien entendu, à la prochaine édition de la quotidienne.